Une voiture incendiée met le feu à un dock attenant Faubourg-Blanchot. 21 pompiers ont été mobilisés plusieurs heures hier soir. C'est lundi et vous retrouverez dans ce journal, comme chaque semaine, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Sonia Backès en déplacement à Dumbéa. La présidente de la province sud a notamment visité le centre médical de Coutio et parlé sécurité. En métropole, Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature pour l'Élysée. C'est la quatrième fois que le leader de la France insoumise se lance dans la course. Et puis la crise des carburants en métropole. Le ministre de l'économie réunit demain les distributeurs que beaucoup accusent de profiter de la guerre au Moyen-Orient. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. On parlera sport dans le magazine des sports, comme tous les lundis, à la fin de cette édition. Mickaël Juneski, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et notamment du rugby, il y aura des clubs français dans les deux finales européennes.
Absolument, l'UBB qui veut garder son titre en Champions Cup, après avoir écarté Toulouse en quart, et aujourd'hui les Anglais de Bath en demi. Les Girondins espèrent faire la passe de deux, à condition de gagner la finale contre le Leinster le 23 mai. Et puis on retrouvera aussi Montpellier en finale du Challenge contre l'Ulster, un parfum de France-Irlande pour ces finales européennes.
On parlera F1 également, Mickaël ?
Absolument. Après 5 semaines de pause forcée, les cartes ont été rebattues. Si Kimi Antonelli sur Mercedes a encore gagné le Grand Prix des États-Unis sur le tracé de Miami, les McLaren se sont retrouvés dans son sillage. L'écart s'est réduit donc durant ces semaines de pause forcée. Du côté des pilotes français, la mésaventure, le crash dans le 5e tour à la fois donc de Isaac Hadjar et de Pierre Gasly. Ça reprend mal, évidemment, pour les tricolore dans cette nouvelle partie de saison qui commence.
Nous reviendrons sur les résultats sport en Calédonie et nous parlerons notamment en équitation avec nos invités.
Ouais, des cavaliers de la Gourmette qui vont de nouveau participer au championnat de France de la discipline en métropole. Grande aventure que la structure souhaite pérenniser dans le temps pour faire encore progresser le niveau des cavaliers en Calédonie et continuer de se mesurer aux meilleurs pratiquants nationaux. Nous en parlerons avec nos invités qui préparent ce voyage pour le mois de juillet vers le haut niveau.
Rendez-vous pour le MAC des sports à la fin de ce journal. L'actualité marquée par cette enquête qui se poursuit au Faubourg Blanchot après la destruction d'un dock de 200 mètres carrés hier soir. Mais l'origine criminelle de l'incendie ne fait aucun doute, Nicolas Legrand.
Oui, les caméras ont tout enregistré. Vers 21h, des individus sont entrés dans le dock de la société IPAC. Ils étaient visiblement à la recherche des clés de voiture garées sur le parking. Quelques instants plus tard, d'ailleurs, ils ont essayé de démarrer un véhicule de la société. Impossible en raison du système antivol. Ils ont donc ensuite poussé le véhicule sur quelques mètres et l'ont incendié. Les flammes ont rapidement pris sur le dock et à l'arrivée des pompiers, la structure de 200 mètres carrés était entièrement embrasée. Le travail des 21 soldats du feu dépêchés sur place a consisté à éviter la propagation au dock mitoyen dont la toiture a été léchée, elle aussi par les flammes, même s'il a pu être sauvé. Une intervention rendue difficile en raison du risque d'effondrement de la mezzanine. Ce matin, les experts sont passés pour faire les constatations d'usage aux côtés de la police. Et face au dock calciné et à son outil de travail détruit, Mickaël Bournet, le co-gérant de la société IPAC, n'a pas caché son amertume.
Consternation totale, on a tout perdu. Il nous reste 3 véhicules, plus d'outils pour les chantiers, plus d'outils dans les bureaux, plus rien. Voilà, c'est fini. On va voir comment ça se passe avec les experts, les assurances et la suite. Déjà que c'était extrêmement compliqué, quoi. Là, ça nous amène effectivement à certainement arrêter, quoi, définitivement. Mais moi, en tout cas, il est hors de question que je dise bah, c'est fini et je repars, non. On est là, on reste et on continue. Avec ceux qui veulent.
Vous aviez déjà eu des voitures brûlées en 2024 ?
C'est ça, ouais. Ouais, on a eu 2 véhicules sur le parking qui ont été brûlés, quoi. Ensuite, on nous a cambriolé 2 fois le conteneur aussi, quoi. Ils sont partis avec des outils. Et il y a moins d'un mois aussi, ils sont rentrés dans le bureau, je pense, pour faire une petite projection, là. Et puis, là, hier soir, ils ont fini ce qu'ils ont commencé, quoi.
Et ce matin, les 3 salariés qui travaillaient dans le dock ont donc été renvoyés chez eux, tandis que les ouvriers ont regagné leur chantier pour tenter, tant bien que mal, d'honorer les commandes.
Les équipes d'Enercal continuent leurs investigations. La coupure de courant généralisée hier après-midi sur la Grande Terre. Selon les premières hypothèses, l'incident a été provoqué par une forte activité orageuse dans le Grand Sud. Il s'agit maintenant de déterminer pourquoi cela a engendré une coupure généralisée. La distribution d'électricité a été interrompue à partir de 12h30 sur le réseau de transport de la Grande Terre. La panne a impacté 100 000 foyers. Les distributeurs d'énergie EEC et Enercal ont pu relancer les réseaux de distribution pour réalimenter les foyers progressivement dans l'après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Au lendemain d'un nouveau blackout sur l'ensemble de la Grande Terre, comprenez-vous qu'Enercal n'arrive pas à stabiliser et sécuriser le réseau électrique ? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et on poursuit ce journal, comme chaque lundi, avec la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
On se raccroche à ce qu'on peut. Et comme personne ne sait où l'on va, ni comment va évoluer la situation institutionnelle, chacun répète à l'envi que la seule certitude, c'est que les élections provinciales auront lieu le 28 juin. Mais en est-on bien certain ? Lors de la dernière réunion mardi entre Sébastien Lecornu et les partenaires politiques calédoniens, aucune date n'a été fixée précisément pour le prochain scrutin. Les participants ont seulement déduit de ses propos ou de ses silences que le Premier ministre allait respecter la date limite du 28 juin au plus tard. C'est la loi organique du 6 novembre 2025 qui a fixé cette date du 28 juin en entérinant un troisième report afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On le sait, les élections provinciales étaient prévues à l'origine en mai 2024 et elles avaient été reportées une première fois jusqu'au 15 décembre 2024 au plus tard pour mettre en œuvre la réforme constitutionnelle modifiant le corps électoral, réforme qui a été interrompue par les violences insurrectionnelles de mai 2024. Dans le contexte post-émeute, il avait été décidé de reporter de nouveau les provinciales au 30 novembre 2025 pour permettre la reprise du dialogue institutionnel. Et en novembre 2025, après Bougival, il avait été décidé de reporter une fois encore le renouvellement des membres du Congrès et des assemblées de province au 28 juin 2026. Une prolongation de 25 mois du mandat provincial que le Conseil constitutionnel n'avait pas estimé disproportionné. Mais il précisait que c'était la dernière fois que l'on pouvait reporter les élections provinciales. Un report supplémentaire méconnaîtrait la Constitution, indiquait même la haute juridiction. Dont acte. Mais est-ce si sûr ? Nous serons bientôt fixés, puisque le décret de convocation des électeurs doit être publié 4 semaines, au moins avant la date du scrutin, c'est-à-dire au plus tard, au 27 mai prochain. Mais jusque-là, il convient de rester prudent. D'autant plus qu'objectivement, un nouveau report ne serait pas complètement absurde, même s'il rallongerait d'autant l'interminable mandat débuté en mai 2019. Il suffirait en fait d'une nouvelle loi organique pour différer une fois encore le scrutin, et le gouvernement pourrait justifier ce report par la nécessité de poursuivre les discussions ou d'aboutir à un accord sur l'ouverture du corps électoral, élément essentiel de ces élections provinciales. Il pourrait arguer qu'un décret de convocation des électeurs sur un corps électoral gelé ferait l'objet de multiples recours et qu'il vaut mieux tenter une ouverture même partielle, d'autant plus que le Rassemblement national se déclare prêt désormais à adopter une réforme de ce type. Sans oublier que la date du 31 mai avait circulé un temps pour organiser le scrutin. Les raisons de cette date anticipée étaient pertinentes et elles sont toujours d'actualité. Il s'agissait d'éviter d'organiser les élections sans des renforts conséquents en forces de l'ordre. Or, de nombreux escadrons de gendarmerie seront mobilisés pour sécuriser le sommet du G7 qui se déroulera à Évian du 15 au 17 juin. Sera-t-il possible d'en mobiliser suffisamment pour sécuriser 10 jours plus tard les provinciales en Nouvelle-Calédonie? Toujours est-il que cette incertitude de calendrier ne va pas arranger les affaires des candidats potentiels aux provinciales. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Pas une semaine sans qu'un nouvel impétrant ne se fasse connaître. À ce rythme, si les élections étaient encore reportées, les listes seraient légion, notamment en province sud. À moins qu'un nouveau report ne permette de décanter ses aspirations et de privilégier l'indispensable union. Décidément, il n'y a vraiment aucune certitude.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver évidemment sur notre site internet, à réécouter aussi cet après-midi juste après le flash de 16h. Avant de marquer une première pause dans ce journal, notez que ce 4 mai est la date anniversaire de la mort de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene Yewene. Ils ont été assassinés il y a 37 ans, le 4 mai 1989 à Ouvéa, lors de la commémoration de la fin de la prise d'otage. Les deux leaders du FLNKS ont été tués par Djoubeli Wea, Kanak indépendantiste extrémiste qui a lui-même été tué par l'un des gardes du corps de Jean-Marie Tjibaou. Il est 11h40, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, Leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, Sonia Baquès en visite à Dumbéa, accompagnée par le maire de la commune, Cynthia Jean. La présidente de la province sud a notamment visité le CMK, le centre médical de Koutio. Elle a fait plusieurs annonces concernant la sécurité, Léana Colombo.
Oui, depuis les émeutes de mai 2024 et même avant, ce quartier de Dumbéa a de nombreuses fois été victime d'exactions. L'établissement médical, qui regroupe plusieurs médecins et dentistes, a encore récemment été victime de vols et de casses. Ces cinq dernières semaines, quatre cambriolages ont été signalés. Pour renforcer la sécurité, une convention entre la mairie et la province sud a été renégociée, passant de 35 à 53 millions de francs. Cette augmentation permettra de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain de 20% pour la police municipale, ainsi qu'un élargissement des horaires de patrouille, notamment la nuit. Sonia Baquès, présidente de la province sud.
Un sujet pour lequel il y a beaucoup d'attentes de la part des Dumbéens, le sujet de la sécurité. Il y a un vrai besoin d'avoir plus de visibilité des forces de l'ordre, plus de présence. Il y a malheureusement beaucoup de cambriolages et un sentiment de peur, on le voit ici dans ce cabinet médical, mais je pense que c'est un sentiment général. Donc là, la province accompagne les actions de la mairie pour financer plus de moyens pour la police municipale, donc plus de visibilité des forces de l'ordre. Des auxiliaires de proximité aussi, qui aussi rajoutent de la visibilité. On va également financer de quoi augmenter la brigade canine, qui fonctionne bien. Sur la sécurité, Il y a beaucoup de choses. On a évidemment informé les personnels médicaux qu'ils peuvent bénéficier des aides de la province pour sécuriser leur cabinet médical. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre les choses en main et le faire ensemble avec la mairie. Et c'est une bonne chose que la maire ait pris ce sujet en main.
Il a également été question du départ de certains médecins dans ces quartiers et du fait qu'ils n'étaient pas remplacés, en partie dû au manque de sécurisation des lieux. Plusieurs points de situation seront faits dans les prochains mois. Mais avant de parler sécurité, Sonia Baquès et Cynthia Jean s'étaient rendues à l'école Gustave Klein pour annoncer le programme de climatisation des écoles. La province sud soutient financièrement ce projet à hauteur de 75%. 53 classes sont concernées. Une promesse de campagne que Cynthia Jean se dit fière d'avoir présentée aujourd'hui.
Nous étions l'une des dernières communes, si ce n'est la dernière commune de la province sud, à ne pas avoir ces classes des écoles primaires climatisées. Ça concerne le bien-être des élèves dans nos classes. Grâce là aussi à l'effort de la province sud, nous allons pouvoir démarrer ce programme dans les semaines qui viennent. Nous allons déployer un programme sur les 12 prochains mois qui coûte 30 millions. Et l'annonce qui a été faite ce matin à l'école nous a fait chaud au cœur parce qu'on a vu des institutrices pleurer en repensant à toutes ces années passées avec leurs petits dans des classes dans lesquelles ils ont relevé parfois des températures de 39 degrés, alors que, évidemment, tous les bureaux de l'administration de la commune sont, eux, climatisés.
En fin de matinée, la visite s'est poursuivie au centre de rugby de Dumbéa pour notamment faire le point sur l'état des infrastructures et les besoins du monde sportif. Dernière annonce faite ce matin, un soutien financier aux acteurs économiques impliqués à la fête de Dumbéa. La province sud accompagnera la ville pour le remboursement de 50% du prix des stands des exposants de la fête de Dumbéa et de l'omelette géante, dont les recettes ont été fortement impactées par les mauvaises conditions météorologiques.
La province sud qui lance aujourd'hui la 6e édition de son budget participatif Monde Idée pour ma province. Elle invite les habitants à devenir acteurs de leur territoire. Ce dispositif, lancé en 2020, permet aux citoyens de proposer des projets d'utilité publique relevant des compétences provinciales, répondant à un intérêt général et contribuant à l'amélioration du cadre de vie. La campagne de dépôt des projets est ouverte jusqu'au 19 juillet sur le site internet de la province sud. Sud. Parlons maintenant du conseil municipal junior de la ville de Nouméa. La campagne est lancée pour le renouvellement des élus qui représenteront les enfants de la ville, Mickaël Duneski.
Un scrutin prévu le 22 mai prochain pour désigner des élèves des établissements primaires qui représenteront donc leurs camarades en exposant des projets auprès des élus de la ville. Aujourd'hui, les adjoints au maire de Nouméa et les conseillers municipaux se rendaient dans les 33 écoles élémentaires de la ville pour expliquer en quoi consiste cette élection et pour distribuer le matériel de vote, des cartes d'électeurs, des enveloppes et le guide des CMJ. Diane Buduyet, 8e adjointe à la mairie de Nouméa, était à l'école Robert Burke de la Rivière Salée.
Bonjour les enfants.
C'est les prémices de ces jeunes citoyens, de leur engagement, de connaître également comment fonctionne du coup l'institution et qu'est-ce qu'il en ressort de cet engagement citoyen pour les différents projets, pour le bien-être et l'amélioration de la ville. C'est aussi une sensibilisation pour certains parce qu'on est sur des classes de CE2. Les électeurs CE2, CM1 et CM2 découvrent ce qui vient de se passer pour les grands, comme ils le disent. Donc c'est vraiment pour eux une approche aujourd'hui de la démocratie et de comprendre ce que c'est et d'être vraiment impliqués et d'être nos futurs citoyens engagés. C'est leur expérience, leurs besoins, leur vision qui nous importe et c'est avec eux qu'on construit la ville de Nouméa. Les projets seront étudiés dans différentes commissions. On a vraiment cœur à impliquer toute la population et ça commence évidemment avec les enfants à l'école.
C'est un moment important pour tous ces jeunes en classe de CE2, CM1 et CM2. Anne-Sophie Michalak est la directrice de l'école Robert Burke.
C'est un exercice essentiel. Donc, pour les enfants, c'est un premier plongeon dans leur vie de citoyen. Donc là, c'est à nous, en primaire, où on a vraiment la possibilité de pouvoir travailler justement sur les droits, les devoirs et puis surtout la responsabilité dans ce vote. Les enseignants veillent justement à bien mettre en avant le projet et puis surtout les candidats que l'on sent les plus investis et engagés. Le CMJ, souvent, c'est séduisant parce que c'est vrai que le programme des enfants est plutôt sympathique, mais ce que nous on attend aussi, c'est d'avoir des élèves qui tiennent sur les 2 ans, donc ça veut dire aussi l'accompagnement des parents, hein, parce qu'il faut y aller, hein, il faut s'y rendre sur les missions du CMJ. On essaye de faire à l'avance ce tri, on va dire, hein, de bien expliquer que c'est une vraie responsabilité et que nous on tient d'eux parce qu'ils vont représenter l'école.
Les jeunes candidats pour un mandat de 2 ans devront désormais se présenter à leurs camarades, ainsi que les projets qu'ils portent ou qu'ils construiront au profit de la jeunesse. Chaque binôme pour les 33 écoles de Nouméa devra respecter la parité. Un garçon, une fille. Plus de 3000 écoliers participeront à cette élection.
Encore une semaine un peu particulière avec ce vendredi 8 mai qui sera un jour férié. À l'approche de ce long week-end, la province Nord communique sur la fermeture de 13 CMS. Dès jeudi 7 mai à 16h, 5 centres médico-sociaux de la côte ouest, Poya, Conné, Vaux, Kaalagomen et Poum, mais aussi 8 de la côte est, Ouégua, Poindimier, Puébo, Ponériouin, Yengen, Wailou, Touo et Canala seront fermés. Ils ne rouvriront que le lundi 11 mai à 7h30. Concernant le centre médico-social de Bélep, les urgences de premier secours seront assurées 24h sur 24 et les permanences de soins de 9h à 10h30 vendredi, samedi, dimanche. La province Nord appelle la population à la prudence et à la vigilance et rappelle qu'en cas d'urgence, il faut contacter le SAMU au 15. L'actualité militaire et l'exercice multinational et interarmé Tagata Toa 2026 est lancé aujourd'hui à La Fois, mais aussi à Bourail et Moindou. Les forces armées de Nouvelle-Calédonie s'y préparent depuis au moins un an car c'est un exercice de coopération grandeur nature qui rassemble 1 millier de soldats de différentes nationalités, nous a dit le lieutenant-colonel Bertrand, c'est le chef du bureau des activités. Il était notre invité à 7h30.
Cet exercice, comme beaucoup de nos exercices, il est ouvert à nos partenaires internationaux dans le cadre de la coopération régionale de sécurité du Pacifique. Ces partenaires, concrètement pour l'exercice Tagata Toa, sont les Américains, des unités américaines et des militaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'effectif à ce jour de l'exercice est autour 1 millier d'hommes. C'est un entraînement pour préparer les forces dans le cadre de la préparation opérationnelle, dans le cadre de la coopération régional international, qui permet aussi d'entraîner le commandement du régiment et sur le terrain l'interopérabilité à la fois des moyens français et des moyens étrangers.
L'exercice va durer 5 jours. Le lieutenant-colonel Jérôme, chef du centre des opérations à l'état-major interarmé, préfère alerter les habitants de La Foix et des alentours qu'ils ne soient pas surpris de voir de nombreux soldats cette semaine sur terre, dans les airs et en mer.
Il y a des activités aéronautiques, donc avec des largages de parachutistes, certaines séquences, des actions maritimes ou plus particulièrement amphibies sur les côtes ouest au niveau de Bohai, avec la mise en œuvre de batellerie amphibie.
Ouais.
Et des passages réguliers d'hélicoptères, d'avions de reconnaissance, notamment avec nos F-200 gardiens que nous avons au FANC.
Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Cet exercice Tagata Toa 2026 se terminera le vendredi 8 mai avec une journée portes ouvertes organisée sur l'hippodrome de La Foy. Parole, mémoire, vérité et réconciliation, c'est le nom d'une association qui s'est donnée pour objectif de recueillir les histoires de Calédoniens de toutes origines. Les bénévoles ont choisi de débuter ce vaste travail à Vaux. 59 habitants ont été reçus en entretien entre octobre 2025 et janvier 2026, des jeunes, des adultes, des anciens. Ils ont parlé de leur histoire, de leur vision du futur avec une question centrale, comment avancer vers un chemin de réconciliation. Ce qu'il en ressort selon Christophe Sand, membre de l'association PMVR, c'est que le poids de l'histoire, pèse encore beaucoup sur les habitants.
De toute évidence, la société calédonienne, c'est une société fracturée aujourd'hui. On voit encore une fois dans toutes les communautés le sentiment que 1984 a été un point de bascule et qu'on n'est jamais revenu en fait à quelque chose de avant. Et les gens ont pleinement conscience que pour pouvoir avancer, aller de l'avant ensemble, il y a besoin d'un apaisement de ces fractures, et apaiser ces fractures ne peut passer que par accepter et donc étudier les souffrances que les gens portent en eux pour pouvoir les soigner et pour pouvoir, quelque part, les assumer.
L'étude de terrain menée à Vaux n'est que la première étape de ce projet pour lequel l'association a reçu le soutien de l'État. Elle souhaite poursuivre en organisant une collecte de données à Nouméa cette année. Il est 11h52, une nouvelle pause dans ce journal. Et dans un instant, ce sera une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal L'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
Et on commence par l'actualité en métropole avec la fin d'un vrai faux suspense. Jean-Luc Mélenchon sera bien candidat à la prochaine élection présidentielle. Il l'a confirmé hier soir. C'est la quatrième fois qu'il se présente pour tenter d'accéder à l'Élysée. Ce n'était pas son choix, a-t-il dit, mais il a été désigné par son parti ce week-end et il entend bien se qualifier pour le second tour, a-t-il expliqué sur le plateau de TF1. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Face à l'éclatement du bloc central et de la droite, Jean-Luc Mélenchon se présente comme le seul rempart au Rassemblement national.
C'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à un point près, ils n'étaient pas au deuxième tour. Donc je pense que nous allons les battre à plate couture, pire encore qu'en 2024.
Sur le fond, il repart avec le même projet qu'en 2022 et surtout son obsession contre les forces de l'ordre.
Quand on représente avec un uniforme l'autorité de l'État et la loi, on doit être parfait. Pas un peu, parfait. C'est dur. Mais c'est l'objectif. Or, ce n'est pas le cas.
Pour enfin réussir à accéder au second tour, Jean-Luc Mélenchon veut forcer le reste de la gauche à se ranger derrière lui et les appelle à la responsabilité.
Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré.
Mais les socialistes, écologistes et communistes refusent toute alliance derrière Jean-Luc Mélenchon.
Toujours en métropole, le dossier du prix de l'essence continue de susciter des tensions. Les distributeurs sont accusés de profiter de la guerre au Moyen-Orient. Ils seront réunis demain à Bercy par le ministre de l'économie Roland Lescure. Le gouvernement reste toujours opposé à une taxation générale et il faut aussi gérer la situation de Total, dont les bénéfices de 5 milliards d'euros au premier trimestre aiguisent les appétits. Le Premier ministre a confirmé qu'il demandait aux géants pétroliers de plafonner ses prix jusqu'à la fin de la crise. Caroline Baudry.
Sans donner davantage de précisions, le Premier ministre maintient la pression sur Total qui s'est engagé à plafonner à 1,99€ le litre d'essence et 2,09€ celui de diesel. Selon Pascal Delimas, chef économiste chez Novamind, difficile de faire davantage pour le géant tricolore.
C'est pas là qu'est le cœur des profits, si on peut le dire comme ça. Total peut absorber quelques centimes, donc c'est faisable, mais plutôt, on va dire, sur une période bien déterminée. Évidemment que si la crise continue 2 ou 3 mois, la distribution risque de devenir déficitaire.
Et problématique en termes de concurrence vis-à-vis des autres distributeurs. Le Premier ministre est également pressé par une partie de la classe politique de mettre en place une taxation des surprofits de l'entreprise. Une proposition risquée d'un point de vue économique, estime Philippe Chalmin, économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine.
Je suis assez étonné que des gens que je pense être raisonnable, comme les socialistes, y est adhéré, mais on retrouve effectivement les deux extrêmes, que ce soit LFI, que ce soit le Rassemblement National. Total, comme toutes les compagnies pétrolières dans le monde, a profité de la hausse des prix. Ça voudrait dire que l'on taxe une entreprise française pour être dynamique à l'international, ce qui peut apparaître paradoxal.
Selon ces deux spécialistes, le risque serait d'empêcher Total d'investir dans les énergies renouvelables, par exemple, voire d'inciter l'entreprise à quitter la France.
Toujours en métropole, en bref, à Toulouse, un homme d'une quarantaine d'années tué par balle dans un quartier sensible connu pour ses points de deal. C'est d'ailleurs un règlement de compte qui serait à l'origine de cet assassinat. La victime d'origine algérienne était connue des services de police pour tremper dans le monde du narcotrafic. Et puis à Grenoble, stop à la violence. Une marche blanche était organisée pour dénoncer les nombreux règlements de compte par armes à feu, devenus très fréquents et liés là aussi au trafic de drogue. 3 jours de rave party interdit près de Bourges, cela n'a pas empêché 17 000 personnes d'y prendre part sur un terrain militaire dangereux en raison des munitions qui pourraient ne pas avoir explosé. Les forces de l'ordre étaient nombreuses pour tenter d'encadrer cette fête géante. 600 personnes ont été verbalisées. D'autre part, 5 autres sont dans un état d'urgence absolu après avoir consommé de la drogue. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Laurent Nunez entend pénaliser les responsables de ces rassemblements géants interdits.
La revendication, c'est on vient à Bourges parce que le ministre de l'Intérieur est né à Bourges, enfin dans la zone de Bourges, et on vient sur le polygone parce qu'on est contre la guerre. Et donc, il y a une revendication qui est clairement antimilitaire. Donc je veux simplement dire que ça ne fait que me renforcer dans la conviction qui est la mienne de continuer à porter un projet de loi qui s'appelle Riposte et qui comporte une partie consacrée au rave party. Organiser une rave party maintenant, ce sera un délit puni de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende. Puis surtout, ce que nous allons proposer, c'est que les participants au rave party, dès lors qu'ils ont été informés du caractère illégal de ce rassemblement musical, ce sera un délit aussi pour les participants et nous pourrons appliquer l'amende forfaitaire délictuelle à hauteur de 300 euros.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et puis un mot de l'actualité à l'étranger. Donald Trump rejette le plan de paix proposé par l'Iran. Un plan en 14 points qui n'est pas satisfaisant, estime le président américain. Les USA ont le choix entre une opération impossible ou un mauvais accord, ont réagi les gardiens de la révolution iranien.